December heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set,
toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York.
Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday the 13th.
All right. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du crime à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie sur le Zoom de Monsieur Jonathan Rochefort.
Bonjour.
Comment ça va, Joe?
Correct.
Et on a aussi le stagiaire.
Yes.
Comment ça va, stagiaire?
Ça va super bien.
Ça va bien?
Good. Toi, comment ça va?
Ça va bien.
Yes.
Hey, Joe, tu m'as dit que cette semaine, t'as découvert des jumelles qui font de la lutte.
Ouais.
Puis là, tu sais pas si tu veux montrer ça à tes jumelles, à toi, qui tripes sur la lutte.
Ouais, c'est le dilemme de papa. Tu sais, des fois, les madames qui font de la lutte sont bonnes, ils ont du talent, j'ai rien à dire contre ça. Mais des fois, ils sont là pour plaire aux monsieur qui aiment la lutte. Mais peut-être pas tant que ça, la lutte. Peut-être plus les madames, en général, qui font de la lutte. Fait que, tu sais, montrer ça à mes filles, j'hésite un peu. Je dis pas non. C'est juste j'ai besoin de temps de réflexion.
Toi, le stagiaire, passe une belle semaine?
Yes, ben oui, tout le temps. Moi, tout tu sais temps. Comment c'est.
Il reste une semaine d'école. Au moment qu'on enregistre, il reste une semaine d'école.
Ben oui, ben, ça j'ai hâte. Ben ça, on part en vacances. Le bateau.
On va le tester, c'est cool.
Yes!
T'es rendu où, là, ton bateau?
Je suis bloqué, là. Je suis encore en train de faire ma fibre. Là. J'ai l'impression que ça fait 8 mois que je fais de la fibre. Mais ouais, on finit le cockpit, du gel coat, puis là, j'ai juste sorti que l'école finisse. Là.
Comment t'as dit ça, Joe? Ça répare. Du duct tape, ça répare tout. Là.
Du duct tape, ça répare beaucoup de choses, mais une infiltration d'eau, c'est mollo.
C'est à cause que t'as pas du vrai duct tape pour ça.
Ah oui, confiance dans ton bateau, tu parles que ta coque toute tapée au duct tape.
Ah oui, pourquoi pas?
Pas de stress. Yes.
Toute ta semaine, Alex, on te demande jamais ta semaine, je me suis rendu compte de ça tantôt.
Ouais, ou je vous l'ai fait rendre compte.
Ben, t'avais-tu le goût de nous parler de ta semaine?
Ben oui,
ou
ben,
on s'en fout aussi.
Moi, je me suis... ouais, c'est ça. je me suis fait tatouer cette semaine.
Ben, ouais,
ben oui, ça faisait comme 2 ans hein, quasiment, j'avais pas été me faire tatouer. Et c'est en lien avec du crime?
Ouais.
Un film d'horreur, crime. Je me suis fait tatouer un petit Chucky.
Oh!
Ouh! Ça, c'est mignon!
Ben oui, un petit Chucky trad sur le tibia.
Nice!
Ah. Fait que, ouais, c'était ça. Dernière semaine d'autobus, j'ai hâte.
Ouais.
Après ça, les vacances s'en vont en Gaspésie. Ça va être le fun.
Yes. Puis si quelqu'un veut garder tes chiens, hein, on le propose aux gens hein, qui nous écoutent.
Il y a des chiens à garder. Sur Patreon, si vous voulez garder mes chiens, j'ai 2 chiens à faire garder. Sinon, je les amène, mais de préférence, on les ferait garder. Fait que c'est ça. Puis sinon, cette semaine, c'est moi qui vous présente un crime. Je vous présente l'histoire d'un nom d'un band.
Mm-hmm.
Le band s'appelle Children of Bottom.
Mm-hmm.
Est-ce que vous connaissez Children of Bottom? Joe, oui, j'imagine.
Ouais, c'est un peu, encore une fois, mon enfance. mon adolescence. L'adolescence serait plus précis, enfance, un peu intense. Là. Mais oui, je les ai connus après la sortie de leur 2e album.
Ouais, c'est pas mal lui qui les a mis sa track aussi. Hein.
Ouais, je me souviens pas du titre, mais il était vert. Avec la faucheuse. Mais tu sais, tout leur album a la faucheuse dessus, mais celui-là, il était vert avec la faucheuse. Avant lui, il était rouge avec la faucheuse. Après lui, il était bleu avec la faucheuse. Puis après ça, ils sont revenus encore rouge avec la faucheuse. Ça ressemble à ça. Nom de l'album, m'en souviens pas.
La
ça
faucheuse
ça.
Qui est leur
voyons. Leur Eddie. Ouais, comme Iron Maiden, c'est Eddie, c'est leur mascotte.
Leur mascotte, ouais. C'est notre mot que je cherchais. Puis toi, j'imagine que tu connais pas ça
ben,
pas tout.
Non, moi, j'étais occupé à être heureux puis pas tuer des bébés chats quand j'étais adolescent. Fait que...
Mais...
Je t'ai dit de pas en parler.
Ouais, Children of Bottom, c'est un band de death metal mélodique de la Finlande. Ils ont été formés en 93. Et leur premier nom, Joe, tu sais-tu c'était quoi?
Non.
Non, ça s'appelait Inert.
C'était laid. C'était laid.
Puis ils ont fait 3 démos sur ce nom-là. Les membres en 93, il y avait Alexis Léo, qui est le chanteur, le wild kid. Il y avait Jessac Ratiskanen. Là, c'est moi qui va fucker des mots. Je suis désolé, mon finlandais n'est pas...
Vous autres, puis le scandinave, ça va bien ensemble.
C'est ça. C'est, j'ai pas le finlandais dans mes langues intérieures. Et il y a Samuli Miettinen aussi, qui était le bassiste. Samuli Miettinen, il a quitté le groupe en 95, puis il a été remplacé par Enka Blacksmith Sipilä. Puis après le deuxième démo, il y a Alexander Kiopala qui est guitariste, et Jani Piriszczewski qui ont intégré le groupe. Ils ont fait un démo avec ces membres-là. Léo, il voulait rajouter du clavier pour rajouter une touche un peu plus mélodique au band, puis tout ça. Puis, mais Piriszczewski, après, après une couple de pratiques, puis avait fait le démo avec, il était supposément nul à chier. Fait qu'ils l'ont crissé dehors. Puis il a été remplacé par Jen Wierman. Pis c'est avec lui qu'ils ont fait leur premier album qui est sorti en 97 sous Spin Farm Records. Pis c'est à ce moment-là aussi qu'ils ont changé de nom pour Children of Bodom. Fait que c'est pas mal ça. Durant leur carrière, ils ont sorti 10 albums. C'est en novembre 2019 qu'ils se sont séparés. Jane Wayman, Enka Sepela, puis Jessica Ratikanen. Ils ont annoncé qu'ils quittaient le groupe pour des raisons familiales, comme quoi que la tournée, puis tout ça, ça marchait plus avec leur famille, puis tout ça. Puis Alexis Léo, puis Daniel Freeburn, qui avaient rejoint le band au courant des années, ils ont été comme laissés à eux autres mêmes, sans pouvoir utiliser le nom du band. Parce que les droits appartenaient aux membres qui venaient de quitter. T'sais. Puis après, un peu de temps après, ils ont recréé un groupe qui ont appelé ça Bodom After Midnight. Puis le 4 janvier, Bodom After Midnight, le 4 janvier 2020, ils ont annoncé que le Wild Kid était... 2021, excusez. Ils ont annoncé que le Wild Kid était mort le 29 décembre 2020. Puis au départ, on savait pas de quoi qu'il était mort. Joe, sais-tu de quoi qu'il est mort?
Je pense que c'est pas un cancer, un enfant la même.
Non, non. C'est sa femme qui a annoncé son décès, dans le fond. Il a fait une dégénérescence des tissus conjonctifs du foie et du pancréas à cause de son alcoolisme.
Ah! Est-ce que je suis surpris? Non.
Il avait comme pas appris la leçon. En 2012, il avait déjà rentré à l'hôpital à cause de ça et tout ça. Puis un peu après ce temps-là, le band a annoncé que les raisons de leur départ du groupe, c'était pas à cause de leur famille puis tout ça. Puis il était comme mal à l'aise qu'il avait dit cette raison-là parce qu'il avait essayé de cacher les problèmes de santé puis les problèmes d'alcoolisme de Léo, du Wild Kid. Wild Child, excusez, si je l'avais le Wild Kid depuis le début. Du Wild Child, dans le fond, qu'il essayait de cacher ça pour pas entacher sa réputation puis tout ça. Fait que c'est comme ça qu'il est décédé, dans le fond. Puis ils ont annoncé qu'ils s'étaient séparés aussi à cause de ces raisons-là, parce qu'il était comme plus vivable un peu dans le band, puis c'était rendu dur de travailler avec cette personne-là. Là.
Classique rockstar, un peu. Là.
Ouais, exact. Il y a un chien qui ronfle, c'est ça qu'on entend.
Dans demander... un chien ronfle.
Je me demandais qu'est-ce qu'on entendait dans les micros. J'étais comme, c'est-tu la petite qui fait sa sieste qu'on entend? Mais non, c'est un chien. Fait que, est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire du lac Bodom, des enfants du lac Bodom?
Pas en tout, man.
Moi, je vais y aller un peu avec mes souvenirs. C'était une histoire un peu à la Jason, genre. Camping ordinaire sur le bord d'un lac, meurtrier qui passe dans le coin, fait le tour, repart, that's it. Une affaire de même, me semble, mais je suis pas sûr.
Ouais, ça ressemble, ça vaguement ressemble à ça. Tu T'as quand même vu juste Joe. C'est arrivé, c'est ça, au bord du lac Bonhomme, en Finlande, à peu près une vingtaine de minutes de d'Helsinki, qui est la capitale de la Finlande. C'était arrivé entre le 5, ben, dans la nuit du 5 au 6 juin 1960. Les victimes de ce meurtre-là, c'était Meila Irmali Jortlin, Anja Tulki Maki. Eux, c'est des jeunes femmes qui avaient... ben, des jeunes adolescentes de 15 ans, dans le fond. Et ils étaient accompagnés avec leur chum Seppo Antero Boisman et Nils Willem Gustafsson, leur copain qui avait 18 ans. Ils sont partis en road trip durant la fin de semaine de Pâques, dans le fond. Ils se sont dit, oh, on va aller se promener. Les gars avaient des motos, fait qu'ils ont été promenés en moto, puis ils ont décidé d'aller faire du camping, justement, là, sur le bord du lac Bottom. Mm-hmm. Faire du camping, de la pêche, fêter un peu. Puis tout ça. C'est ça. Ils ont fêté toute la journée, puis ils ont bu de l'alcool. Puis vers minuit, t'sais, ils étaient quand même pas mal fatigués, puis ils sont allés se coucher. Puis ils avaient prévu aussi de pêcher le matin, puis tout ça. Fait que les gars sont allés se coucher. Puis les corps des victimes, ils auraient été retrouvés le lendemain matin à 11h par un jogger qui se promenait. Fait que les quatre jeunes ont été retrouvés là. Il y avait la tente, comment elle était trouvée. Il y avait les corps de la tente étaient coupées. Fait qu'elles étaient toutes comme couchées sur eux autres. La tente toute ouverte. deux secondes, je vais juste me retrouver. Il y avait finalement pas quatre morts, mais trois morts. Puis il y avait un survivant qui était Nils.
Qui était un des chums propriétaire d'une moto, là.
Ouais, c'est okay. Ça, un des gars. Dans le fond, c'était le seul survivant. Il a été retrouvé avec une commotion cérébrale. Il était inconscient, c'est pour ceux qui pensaient qu'il était mort. Il y avait la mâchoire fracturée, puis il y avait plusieurs coups qui avaient été donnés au visage, puis tout ça. Meila, Anja, Seppo, ils ont été retrouvés avec des membres découpés, puis tout ça.
Il y avait-tu du rouge à lèvres?
non, il y avait aucun rouge à lèvres. Meila a été plus violemment attaquée. A été poignardé même après sa mort. Ses pantalons ont été retrouvés comme baissés à ses chevilles. Puis, ils ont aussi retrouvé des vêtements volés. Les portefeuilles ont été volés. Puis, ça a été retrouvé même comme ils ont retrouvé du linge, les souliers de Nils. Nils n'avait plus ses souliers. Ils ont été retrouvés comme à 500-600 mètres de la scène de crime. Puis, une particularité, ce qui a fait un peu en sorte que Neil a été un peu comme le premier suspect. Un, c'était le seul survivant, même s'il était pas mal tapoché. Mais quand ils ont découvert les souliers, ils ont découvert que le tueur portait ses souliers. Avec, comme le ton, il y avait des traces de sang, puis tout ça, mais il n'y avait rien à l'intérieur, comme si les souliers avaient été portés puis que c'était juste des éclaboussures qu'ils avaient reçues dessus. Fait que ça a comme mis un peu les cloches aux autorités. Fait que Neil, c'est ça, comme je dis, il a été le premier suspect du crime. Puis quand il s'est réveillé à l'hôpital, ils ont dit que c'était comme un peu impossible. Lui, la première chose qu'il a demandé en se réveillant à l'hôpital, c'est: voyons, comment j'ai fait pour me ramasser dans un accident d'auto, tu sais.
Ah oui, mêlé.
Mêlé, c'est un bon coup sur la tête, ça.
Un pas pire coup. Puis le survivant, Nils, il a fait de l'hypnose pour essayer de se rappeler, de voir des souvenirs, puis tout ça. Puis ils ont réussi à décrire, assez bien ce qu'il avait vu, pour que les autorités soient capables de faire un portrait robot du présumé assassin. Fait que ça l'a comme un peu enlevé les doutes aussi sur lui. Puis, il a aussi dit qu'il avait vu dans le bois des yeux rouges s'approcher de la tente de bonheur le matin, puis rôder comme alentour, puis tout ça. Puis c'est ça qui a un peu parti une rumeur que ça aurait été peut-être la mort elle-même qui est venue les tuer avec sa faux, dans le fond.
OK.
Du pourquoi, peut-être, que la mort serait le...
La bête d'affiche.
La mascotte de Children of Bodom, dans le fond. Mm-hmm. Fait que, pour résumer, c'est un peu ça. Les meurtres auraient été faites entre 4 puis 6 heures du matin. Puis, ils n'ont jamais retrouvé non plus l'arme du crime. Ils l'ont jamais retrouvé. Ils ont... La seule chose qu'ils pensent, c'est soit c'était une hache, une hachette ou un gros couteau qui aurait été utilisé pour faire ça. Fait que, si vous voulez, on peut se lancer dans les petites théories
Théories, j'aime ça.
De qui aurait fait ça? Fait
que là, on comprend qu'on ne saura pas ce qui s'est passé. Là, tu nous balances des théories, c'est ça?
De quoi on comprend? On ne saura pas ce qui s'est passé.
On sait ce qui s'est passé, mais on ne sait pas qui l'a fait.
On sait pas qui l'a fait.
On joue à clou, plutôt.
Fait que là, il faut qu'on devine la bonne théorie.
Mais je vais vous dire qu'est-ce qui est, parce que c'est un meurtre qui n'a jamais été résolu.
Jamais? Oh, OK.
Ouais, il n'a jamais été résolu. Fait que les premières théories de ce qui aurait pu se passer... ouais, j'avais peut-être oublié de dire que ça n'avait jamais été résolu. Là.
Ben non, je pense qu'on était rendu là.
Oh, on s'est rendu là, une étape à la fois. Là.
Mais c'est ça, le meurtre n'a jamais été résolu. Fait que comme il y a pas mal de théories. Fait que j'ai comme pris quelques-unes qui avaient, je trouvais, un peu plus de bon sens. Puis, tout ça.
Fait qu'en gros, t'as tassé les meilleurs.
Non. En 2004, on se rappelle que en 1960, il y avait tout de suite accusé Niels des meurtres puis tout ça, puis qui ont comme laissé tomber, manque de preuves, peut-être que la technologie pour retrouver des preuves puis tout ça n'était pas avancée. Mais en 2004, 44 ans après les événements, Niels Gustafsson, le survivant, il est redevenu le principal suspect dans l'affaire. Puis c'est avec ce qu'il disait qu'avec les avancées technologiques puis tout ça, en 2005, ils ont réussi à l'amener en cour pour essayer de le faire accuser du meurtre des trois autres adolescents. Puis ils tentent de dire que c'est dans un élan de jalousie que c'est là qu'il aurait fait ça, parce que il était comme nouvellement en couple avec Mayla. Puis c'est elle qui a été le plus maganée, tu sais, que je vous disais, tu sais, elle a été poignardée même après sa mort, a été retrouvée au-dessus de la tente, à l'extérieur de la tente, elle, les pantalons baissés, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme plus violent envers elle, puis logiquement, ça serait, tu sais, ça pourrait être une affaire de jalousie ou quelque chose, puis qui aurait tué les deux autres, qui auraient été comme des témoins.
Dans cette théorie-là, il se serait tapé dans la face tout seul?
Puis c'est là que la défense, c'est là que la défense a rentré que il n'aurait jamais été capable de se faire les blessures qu'il avait, tu sais, la grosse commotion cérébrale, la fracture à la mâchoire, comment qu'il était magané, il n'aurait jamais été capable de se faire ça tout seul. Fait que c'est comme ça qu'il a été acquitté dans le fond.
J'aurais dû devenir avocat, j'ai manqué ma vocation.
Puis l'État, la Finlande, dans le fond, le gouvernement finlandais, il a été obligé d'y verser un montant de dédommagement pour ça. Puis ils ont versé un montant de 44 900 euros pour dédommager Niels. Fait que, c'est ça. Fait que, comme je vous disais, les meurtres sont encore pas résolus, là. Mais il y a eu d'autres suspects aussi. Il y a eu deux pêcheurs qui auraient peut-être été des attaquants parce que pas loin de leur campement, ils ont retrouvé de l'équipement de pêche. Puis qui auraient comme été laissés à l'abandon, là, des poissons, des coffres de pêche avec les cannes à pêche, puis tout ça. Mais il y a deux personnes qui étaient venues checker les oiseaux, puis tout ça, qui auraient vu les deux gars vers 4 heures du matin en train de pêcher, puis retourner se coucher dans la tente.
Mm-hmm.
Puis un peu plus tard, ils ont dit qu'ils ont vu un homme blond sortir de la tente, puis que la tente avait l'air toute maganée. Fait que on peut éliminer les pêcheurs. On penserait peut-être plus que les pêcheurs. Moi, je dirais que ça serait peut-être les gars, justement. Ce serait leur équipement qu'ils auraient laissé là.
Mm-hmm.
Puis qu'ils auraient été... comme ils se sont dit, on va aller se recoucher. On va peut-être se lever un peu plus tard. T'sais, ils avaient prévu d'aller pêcher. Fait on va retourner à ce spot-là un peu plus tard. On va aller se coucher parce qu'ils avaient fêté, peut-être. Fait que moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, plus ou moins cette théorie-là.
Ouais, mollo.
Ben, moi, j'irais avec les extraterrestres. Les extraterrestres. C'est clair, c'est un lac. Il devait être sur le bord. Je m'en souviens plus trop de la forme du lac, mais il me semble qu'une soucoupe pouvait rentrer dans le lac facilement, sortir. Eux autres, ils étaient là tranquilles à faire leurs affaires. Puis là, ils ont vu des campeurs. Ils ont fait « Ah, oh, shit, ils nous ont vus. »
On les tue.
On prend pas de chance. On les tue. On probe la fille. On décalisse.
Fait du sens en crime, ça.
Ben oui.
C'est sûr, là, je vois pas rien d'autre. Là. Pourquoi il y aurait d'autres choses de plus logique?
Il y a une troisième théorie qui a un prisonnier qui s'appelle Pentti Soininen qui aurait avoué avoir fait les meurtres du lac Bottom 9 ans plus tard, durant qu'il était en prison déjà, puis tout ça. Il aurait eu 15 ans durant les faits. Ça aurait pu être aussi une attaque, tu sais, mettons, il sortait avec une des filles, puis il était jaloux, puis il a décidé de tuer tout le monde, puis il en a manqué un, mettons, tu sais. Mais la police lui a jamais vraiment cru, parce qu'il avait pas mal tendance à se péter les bretelles, puis à raconter un peu n'importe quoi pour être intéressant. Puis on saura jamais vraiment s'il l'a fait, parce qu'en 69, il s'est pendu dans sa cellule.
Ah.
Fait que, c'est un mystère.
Est-ce que c'est un blond? Tu sais, ça pourrait concorder avec l'autre anecdote, l'autre théorie.
Ça, j'ai pas eu cette information-là. Mais tu sais, en même temps, c'était populaire aussi. Surtout à cette époque-là, tu sais, des crimes, les gens venaient vraiment célèbres pour avoir fait des crimes, des vols de banque ou des cossins de même, des tueurs en série, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça pourrait être un peu ça. Tu sais, vous cherchez à être connu, à être connu pour quelque chose, puis il s'est dit, bon, ben, cette histoire-là, il n'y a rien, ben, je vais dire, ça pourrait être plausible parce que j'habitais dans ce coin-là, puis
tout ça. Il y a eu un peu le même phénomène avec quand Jack l'Éventreur, ils n'ont jamais su c'était qui Jack l'Éventreur, puis ils ont eu beaucoup de lettres qu'en fin de compte, que les personnes revendiquaient les crimes.
Ouais,
puis il y a juste, c'était pas eux autres, c'est juste qu'il y a une lettre qui se sont dit d'après nous, ça vient vraiment de Jack l'Éventreur, parce que c'était pas signé Jack l'Éventreur. C'était, en fin de compte, c'était marqué From Hell. Fait que ça venait de l'enfer, cette lettre-là. Fait qu'ils se sont dit, oh, ça, c'est peut-être lui qui l'a fait. Mais en même temps, si tu veux, on le saura pas non plus.
Non, ouais, c'est ça. C'est quand même, tu sais, c'est ça qui est un peu plate, tu sais, dans ce genre, tu sais, on. Il y a un mystère, on ne saura jamais qui va avoir fait ça en bout de ligne. Là, mais de voir différentes théories, il y en a. Là, la prochaine, là, les deux prochaines que je vais vous dire là, sont quand même assez comme. Ok, ça pourrait vraiment être ça. Là, ça serait très, très plausible. Puis, comme là, Hans Assmann, qui est la quatrième théorie que je vais vous présenter. Lui, c'est un. Ça, tu vas aimer ça, Joe. C'est un ex. Il est supposément un ex-espion du KGB.
Oh, wow! C'est
un ancien nazi. Okay.
On rajoute une couche.
Puis, lui, pas longtemps après les crimes, il s'est présenté à l'hôpital de Helsinki. Pas longtemps, c'est le lendemain du crime. Puis, il a laissé vraiment personne indifférent dans l'hôpital quand il est rentré là. Il avait l'air complètement perdu, il était agressif, puis il parlait pas la langue, il parlait pas finlandais, fait qu'il avait vraiment de la misère à communiquer avec le monde, puis tout ça. Puis il avait des vêtements qui étaient comme recouverts de plein de petits spots rouges qui pouvaient ressembler à du sang, puis il avait l'air d'avoir beaucoup de terre en dessous des mains, tu sais, comme en dessous des ongles, puis tout ça. Il était blond. Puis, il était blond comme justement les observateurs d'oiseaux avaient vu l'homme sortir. Puis, il vivait vraiment pas loin, comme à 5 km du lieu du crime.
Mm-hmm.
Puis, il y a des voisins qui ont dit que pas longtemps après qu'il ait sorti le portrait robot. Parce que, mettons, la police sont allés le voir un peu avant qu'ils sortent le portrait robot qui avait comme été fait après la séance d'hypnose de Niels. Puis, il l'avait interrogé, mais ça avait comme pas donné grand-chose. Mais quand ils ont sorti le portrait robot, que, mettons, lui, il l'aurait vu. Étrangement, il a rasé ses longs cheveux blonds. Puis, ils l'ont vu aussi... ouais, c'est ça. Il a rasé ses longs cheveux blonds. Il a comme enterré... Il avait l'air d'avoir enterré des affaires. Rebouché son puits. Okay. Tu sais, comme il a fait des affaires weird. Puis, aussi... La communauté pense vraiment que ça pourrait être lui, le meurtrier. Puis il aurait pu être relié aussi à d'autres meurtres commis en Finlande qui n'ont jamais été résolus. Mais okay. Ils n'ont pas de preuves, puis il n'y a rien. Fait qu'ils ont jamais, ils l'ont jamais mis comme suspect. Vraiment, tu sais, après l'avoir interrogé un peu, puis que ça n'avait rien donné, ils n'ont pas poussé ça plus loin à ce moment-là. Fait que ça pourrait être lui.
Ça fait du sens jusqu'à là.
C'est sûr que ça apporte beaucoup de questionnements.
Pas pire, hein?
Ouais, c'est ça, c'est rendu là. Tu fais comme, ouais, là, tout de suite après, il a rasé ses cheveux, il a enterré des affaires. C'est clair que d'après moi, s'il habitait pas loin, c'était lui qui protégeait le secret des extraterrestres. Fait que c'est sûr.
Aussi, il y a, tu sais, sur cet homme-là, tu sais, il y a bien du monde là, qui ont vraiment poussé des recherches, puis tu sais, il y a des livres qui a été écrit sur lui comme quoi que ça serait lui le meurtrier de cette affaire-là. Puis, t'sais, ça rajoute beaucoup là, de « Ok, Chris, ça pourrait être ça pour vrai. Là, mm-hmm. Ça pourrait être lui. » Fait que, on le sait pas, mais c'est peut-être Hans Assmann.
À date, j'achète.
À date, ouais, c'est plus possible.
J'ai une dernière théorie à vous présenter, les gars, qui est Carl Valdemar Gilstrom. C'est un homme qui travaillait dans un petit kiosque, dans un petit village vraiment près du lac, qui est comme pas mal le village voisin de où ce qu'eux autres campaient. Okay. Puis, il avait une méchante de belle réputation, ce gars-là. Il avait la réputation d'avoir un caractère vraiment explosif. Il était connu pour détester les campeurs, puis les adolescents.
Profil. Je déteste les campeurs et les adolescents. C'est qui déteste quelqu'un à ce point-là, genre?
Il a déjà été vu en train de lancer des roches à des jeunes exactement à cette place-là, près du lac.
OK.
Il faisait très peur et terrorisait pas mal tout le monde du village. Lui, il avait comme un kiosque où il vendait de la publicité ou des journaux, des cossins de même. Là. Fait que, il faisait ses petites affaires de même, mais il faisait peur à tout le monde. T'sais. Puis, c'est ça. Il a jamais été interrogé par la police. Pas vraiment. T'sais, ils sont venus le voir, mais il avait un bon alibi, tu sais, puis il était couché avec sa femme, puis tu sais, il dormait à ce moment-là, puis elle a confirmé, tu sais, c'est dire. Fait que son alibi était là, tu sais, fait que les policiers n'ont pas poussé plus les recherches. Puis ici, en 1969, lui aussi, comme notre prisonnier, il s'est suicidé en se noyant dans le lac Bottom.
Oh!
OK.
OK.
Mais sa femme a dit, tu sais, après sa mort à lui, elle a dit aux policiers, elle a rencontré les policiers, puis elle a dit que c'était pas vrai, son alibi.
OK.
Puis que lui, il l'avait menacé de la tuer si jamais elle avouait qu'il était pas là.
Mm-hmm.
Puis que c'était lui, elle disait que c'était lui qui avait fait ces crimes-là. Fait qu'on aurait peut-être un coupable.
Un gars qui aime les campeurs puis les adolescents. Il y a le profil, là.
Elle a lancé des roches. C'est fait en fin de semaine. Ah, les ados qui arrivent proche du lac. J'ai préparé ma pile de roches. Je les attends.
Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, on connaît pas les motifs de qu'est-ce qui aurait pu le pousser à faire ça non plus, tu sais, mais... Est-ce que c'est lui, là, selon sa femme, qui, après sa mort, terrorisé, est allé dire aux policiers, c'est lui, il voulait me tuer si je vous en parlais, ça met un peu. Mais là, est-ce que la femme voudrait avoir du... Encore là, tu sais, jouer sur ça, que là, tout le monde pensait que lui était fou, puis là,
Avoir un peu de fame dans ma petite vie.
Ouais, c'est ça. Ou genre avoir de la pitié du village, comme quoi qu'elle vivait avec ce gars-là, mais dans le fond, elle vivait là, dans la terreur, puis tout ça. T'sais, on le saura jamais non plus, ça. Parce que le gars aussi est mort. Malheureusement, malheureusement, il s'est suicidé. T'sais. Fait que ce serait ça, les gars, pour l'histoire du lac Bottom. C'est ça que j'aurais à vous compter. J'ai quelques fun facts pour finir, par exemple, sur Children of Bottom, si vous en voulez.
Ben oui.
Ben, garde-toi.
Ouais, OK. Ils ont fait leur premier clip du groupe qui s'appelle Dead Night Warriors, qui a été réalisé par Mika Lindberg, avec un petit budget. Est-ce que vous savez combien que ça avait coûté, ce clip-là?
20$.
Peut-être un peu plus de budget que ça, là, mais...
L'inflation.
Ouais, mais tu sais, comme quoi que, tu sais, leur premier album était sorti indépendamment, puis tout ça. Fait qu'ils ont fait ça, leur premier clip, avec 1 000 €, si vous voulez voir qu'est-ce qu'un Ben peut faire de death metal avec 1 000 €.
Je veux pas relancer le black metal, mais pour moi, ils font des vidéoclips. Un peu noir et blanc, une forêt, puis ils sont heureux.
Comme tu avais dit tantôt, Joe, toi, tu les as connus sur leur deuxième album. Puis c'est Hate Breeder, dans le fond, le deuxième album, qui,
oui, c'est ça.
Qui les a fait vraiment découvrir au monde entier. En 2003, au Finnish Metal Music Awards, il gagne meilleure formation finlandaise de l'année.
Oh, quand même.
En 2003, première tournée mondiale pour le groupe. En plein milieu de tournée, Coppola quitte le groupe de façon inattendue. C'est Léo, il dit qu'en entrevue, qu'il croit qu'il a quitté le Ben à cause de sa nouvelle blonde. Elle aimait pas ça, fait que lui, c'est de sa faute à elle, tabarnak.
c'était comment? Yuko Uno, là? Avec, avec John Lennon.
C'est à ce moment-là que Rob Latvala, qui était membre fondateur des Stones, qui l'a remplacé pour le restant de la tournée. Fait que tu fais un petit what the fuck, là. Tu fais ta première tournée mondiale, puis en plein milieu, ton guitariste calisse, là.
Ça pète le mood un peu.
Ouais. En 2005, ils ont fait une démo qui est seulement sortie en Finlande. Puis le groupe faisait une reprise d'une chanson pop très populaire à cette année-là. Est-ce que vous voulez prendre un guess?
C'est Britney Spears. Oops, I did it again.
Yes! Yes! Le 31 janvier, là, j'ai oublié de prendre l'année exacte, mais je pense que c'est 2006. Léo, il se blesse. Ah non, c'est 2007. Le 31 janvier, Léo se blesse en glissant accidentellement dans une allée de bowling et se fracture une épaule.
Oh.
Léo est plus capable de jouer de guitare durant 6 semaines, puis il est obligé d'annuler toute sa tournée de 2007.
En jouant au bowling.
Ça, c'était métal en salle, du bowling.
Yes.
Pas de coup de poignard, une petite chute.
Le groupe signe leur premier contrat au Royaume-Uni. Je pense que c'est en 2008. J'ai encore oublié de noter l'année. Chris, je corrige ça. À Zavi, à Londres, ils signent pour la mise en vente de Blood Drunk en format CD et vinyle 7 pouces et 12 pouces. Il y a de quoi de spécial avec les 12 pouces. Ils l'ont sorti d'une façon limitée. À combien de copies pensez-vous qu'ils ont limité ça?
Je sais pas, mais si je me souviens, c'est qu'il y avait des taches de sang, puis je pense que c'était le sang du bonhomme directement dans le vinyle.
OK, ça se peut.
Peut-être que je me trouve, mais il y a un groupe, me semble, qui avait fait ça, qui avait sorti un vinyle, puis il y avait une goutte de sang dans chacun des vinyles imprimés. Mais ça se peut que ce soit pas eux autres, là. Peut-être que je me trompe.
Mais non, c'est ça, ils ont sorti, c'est un nombre de copies. Prenez un guess de nombre de copies.
666.
T'as l'air dessus. Oh.
c'est le monde du métal, c'est rendu des clichés, là.
Le 2 avril 2009, ils embarquent dans une tournée avec No Fears, la tournée No Fears Energy Tour, aux côtés de Lamb of God, Eyes Eyelay Dying, qu'on va probablement parler à Du Crime à mes oreilles aussi.
Ouais, eux autres aussi sont un peu spéciales.
Ouais, mais le 26 avril, Léo chute une deuxième fois, il se reblesse encore à l'épaule, il essaye de finir la tournée, mais il est pas capable, il est obligé d'annuler les dernières dates de la tournée.
Ah ouais.
C'est encore blessé au bowling?
C'est pas au bowling, ils disent pas comment qu'il est, où ce qui est tombé, mais il est encore tombé probablement à cause de l'alcoolisme. Puis il s'est blessé une deuxième fois à l'épaule, puis il était encore obligé d'annuler tout ça. Léo, il a reçu aussi des prix après sa mort pour qu'est-ce qu'il a apporté à la musique, pour l'histoire du groupe puis tout ça, parce que Children of Bodom aura quand même été un des groupes les plus influents de la Finlande, puis un des groupes qui a aussi mis la musique finlandaise un peu plus reconnue dans le monde entier. C'était ça mon épisode sur Children of Bodom. Je sais pas si vous avez aimé ça.
Yes, ben ouais, merci. Ouais.
Yes. Je voudrais juste pour le stagiaire, si jamais tu te poses des questions, ça ressemble à quoi Children of Bodom? Là? C'est en fin de compte, c'est comme si AC/DC ferait du dead metal.
OK.
Puis en fin de compte, c'est d'un album à l'autre, ça change pas tant que ça, mais c'est toujours une formule gagnante.
Oh. Yes. Ben c'est ça, tu sais, c'est. Ça reste de la pop death metal. Là, c'est souvent, c'est ça, les bands vont rentrer, mettons, dans le death metal. Ça va être souvent les premiers bands qui vont découvrir. Là, Children of Bodom.
Children, je me souviens.
Cannibal Corpse. Ça reste dans des groupes clichés de ce genre.
Du genre. Les quatre premiers albums de Children, ils étaient bons. Après, ben, ils étaient bons. Moi, j'ai trouvé bon, là. Puis après ça, je trouvais juste que c'était du copier-coller. Ça revenait toujours à la même affaire. J'ai décroché après.
T'as-tu écouté du Bodom After Midnight ou non?
Non, j'ai jamais su qu'il y avait parti un autre groupe après. Dès que j'ai décroché, j'ai totalement décroché. Ouais. C'est comme, il n'existe plus. Ça, right. M'arrive souvent, ça.
Ah ouais, hein? Moi aussi, il y en a des bands de même. Kevin, ouais. où est-ce qu'on nous suit?
Ah, on nous suit. Déjà, faut nous suivre sur Twitter, DBMO Balado. C'est là que ça se passe.
T'as-tu été vérifié?
Je prends pour acquis, je me suis pas encore abonné. Notre grosse plateforme, Twitter. Ouais, ouais. Non, vous pouvez nous suivre sur Instagram. C'est là que vous allez savoir quand est-ce qu'on enregistre. On publie toujours dans les 24 heures qui précèdent. Pour aussi. Notre Twitch, sur Facebook aussi. Les sorties sur Patreon, nos enregistrements à Twitch, c'est là qu'on les publie. Sinon, vous venez nous suivre directement sur Patreon aussi.
3$, 4$.
Yes, 3$, 4$. Vous nous donnez de l'argent, ça nous permet de se gâter. Je veux m'acheter des grosses chaînes pour parler du rap. Fait qu'il faut s'abonner.
Oh oui, c'est sûr que c'est pour ça. Non, c'est ça. Si vous voulez juste nous encourager, c'est une façon de le faire. 3$, vous avez les versions audio. Là, vous êtes sur Du Crime à mes oreilles, mais vous avez aussi Du Bruit à mes oreilles. C'est le même Patreon. Vous avez version audio pour 3$, 4$, vous avez la version audio et vidéo. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur Twitch avec. Ouais. Si vous êtes Amazon Prime, ça nous donne un petit 3$. Puis toi, ça te coûte rien. Fait que si jamais tu veux nous encourager comme ça, on enregistre tout ce qu'on fait du bruit à mes oreilles là. Pour nous suivre, pour rien manquer, dubruitamesoreilles.com. Ouais. On a notre. Team Oreille.
On a notre. Qu'on peut s'abonner aussi pour recevoir les courriels.
Team Oreille, si vous voulez vous abonner à notre. Liste d'envoi. Yes. Puis on vous envoie pas, on vous achale pas tant que ça. Là. Je vous le promets. Puis on est live le 9 juillet, ça va être passé peut-être. 9 juillet, on est live au Traxide à Montréal. Fait que on se voit là-bas.
Yes.
Bonne
ça
semaine.
Va être malade.
Yes, bonne semaine tout le monde et à la prochaine.
Bisous bien.